Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le temps du débat et en ce 1er mai, jour de la fête du travail, nous nous intéressons aux nouvelles précarités avec cette question, travailleurs de plateforme vers un nouveau prolétariat.
Moi j'ai 24 ans, ça fait 2 ans et quelques que je bosse pour Uber Eats.
J'ai pas le temps, bon, j'ai la meilleure pizza du monde à livrer.
Pizza Hawaii.
Pour 60 heures en moyenne, là actuellement, en 60 heures, je fais 400 euros.
Sans qu'on en ait conscience maintenant, en fin de compte, le précariat, il est sous nos fenêtres, il a des gros cubes, il fonctionne, il roule sur des vélos, donc il est là.
C'est sûr que là, s'il n'y aurait pas mes parents, là, je serais à la rue, hein, je serais SDF. Avec ce travail-là, tu peux pas du tout vivre. Hein. Vu que déjà, tu sais même pas combien tu vas gagner, t'as la boule au ventre. Ça, c'est juste un sous-boulot, un sous-métier en fait.
Ok. On se fait un délibro ?
Je ne peux rien communiquer sur la compagnie. Ni du salaire, ni le contrat, ni ce qui se passe, ni le contenu. Et eux, ils ont les moyens de tout et moi de rien, donc...
Uber Eats, parlons bouffe.
Ouais, ça donne du travail qui rémunère de moins en moins. Donc en fin de compte, finalement, on voulait avoir des auto-entrepreneurs heureux. Finalement, on a des syndicalistes en colère.
Par ce statut, on a un énorme retour en arrière qui a lieu, par un retour au paiement à la tâche, donc par une absence de possibilité de s'organiser, par une absence de négociation. C'est un retour total à des situations dignes du 19e siècle complètement.
Pendant que les syndicats défilent dans toute la France pour faire valoir les droits des travailleurs, des livreurs, des chauffeurs, des coursiers ne se sont pas arrêtés une seconde pour livrer sur des vélos ou scooters de fortune toujours plus de colis signés Amazon ou de plats chauds ou froids servis par Deliveroo ou Uber Eats. On les appelle les travailleurs de plateforme et selon les estimations, en 2025, plus d'un demi-milliard de personnes feront partie de cette classe d'individus guidés par des algorithmes, payés quelques euros de l'heure pour satisfaire le consommateurs qui cliquent plus vite que son nombre, des consommateurs pressés que nous sommes tous à un moment ou à un autre. Comment la pandémie a impacté sur leurs conditions de travail? Quelle est d'ailleurs la réalité de leur métier, loin des promesses d'indépendance? Et quels sont leurs moyens de contestation? Enfin, derrière ces hommes et ces femmes qui habitent nos rues d'après couvre-feu, qui sont ces travailleurs du clic, ceux que nous voyons même pas et qui, derrière la grande machine, participent au mirage du numérique? Tel est le programme de ce temps du débat, à écouter jusqu'à 19h sur France Culture ou quand vous le désirez sur l'application de Radio France.
France Culture, le temps du débat du samedi, François Saltiel.
Et pour mieux comprendre cette économie de plateforme, j'ai le plaisir d'accueillir 3 invités. En studio avec nous, Gurvan Krishnajaya. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à Libération, spécialiste des questions de migration, et vous venez de publier un livre chez Robert Laffont au titre radical, Ubérisation, piège à con. Et vous avez expérimenté sur le terrain la réalité des livreurs. On vous sent embauché par de multiples structures. Votre travail d'immersion sera précieux pour nous éclairer sur cette nouvelle précarité. Distance avec nous, Barbara Gomez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maîtresse de conférence en droit social à l'Université Polytechnique Hauts-de-France et conseillère de Paris. Vous avez suivi de près les combats des travailleurs, souvent sans papier, qui tentent de faire valoir leurs droits. Votre regard nous permettra de mieux cerner les complexités juridiques et la relation avec l'employeur. Enfin, à distance toujours, Antonio Casilli, bonsoir.
Bonsoir François Saltiel.
Vous êtes professeur à l'Institut Polytechnique de Paris et chercheur associé à l'EHESS et vous avez publié chez Seuil en 2019 un livre qui fait toujours référence En attendant les robots, enquête sur le travail du clic, et vous nous parlerez de ces petites mains de l'intelligence artificielle, enfin l'intelligence dite artificielle, sans oublier de nous décrypter les rêves et désillusions de l'ubérisation. Alors Gurvan Krishnajaya, pardon, on commence avec vous. Je le rappelle, vous n'avez pas hésité à enfiler la panoplie du parfait livreur pour expérimenter le travail de plateforme. Alors, première question très pragmatique, quelle est la réalité de la rémunération de ces livreurs qui ne comptent pas leurs heures pour pédaler entre les feux rouges et les camions ?
Si on parle des livreurs de plateforme, une grosse journée, enfin en tout cas moi tel que je l'ai faite, une grosse journée, on peut considérer qu'à 80 euros c'est bien. Parce qu'il faut voir que en fait, dans le temps de rémunération, il faut compter le temps d'attente. En fait, on travaille pas forcément tout le temps. Quand on allume l'application, on attend que ça sonne, on appelle ça sonner, et les livraisons sont aléatoires, donc ça peut être 5 euros comme 10 euros pour la demi-heure, et puis on revient. Donc ouais. Par journée, moi, je comptais 80 euros environ.
Et comme vous le dites, c'est-à-dire que le temps d'attente, et on les voit d'ailleurs tous, quand on habite dans les grandes villes encore plus, ces livreurs qui sont comme ça, en attente devant des fast-food, c'est-à-dire que ce temps d'attente, évidemment, ce n'est pas un temps qui est rémunéré.
Et non, c'est toute la... la complexité de la chose, c'est que, évidemment, comme c'est un travail indépendant et que les plateformes ont fait le choix du statut d'auto-entrepreneur dès le départ, le temps d'attente, effectivement, et c'est une rémunération à la tâche, donc le temps d'attente n'est pas rémunéré, et c'est là que c'est compliqué, quoi. Parce que il peut y avoir une heure travaillée, qui serait travaillée dans d'autres entreprises, mais qui ne l'est pas pour nous, en réalité, puisque pendant cette heure-là, compte tenu du statut d'auto-entrepreneur, on ne touche rien.
Alors, on retiendra donc ce chiffre, 80 euros. Hein, vous l'avez expérimenté pour combien d'heures de travail?
C'est une dizaine, une petite dizaine. Ouais.
D'accord. Alors, Antonio Casilli, Gourven venait de prononcer le terme d'indépendance. Qu'est-ce qui séduit justement ces jeunes? C'est cette promesse d'indépendance, le rêve, la possibilité réelle ou non de s'affranchir d'un patron?
C'est la propagande qui est liée à cette idée d'autonomie, de gestion de son propre temps. Dans certains cas, si on parle de la livraison aussi, même à un certain aspect de l'activité physique, n'oublions pas qu'au début, Deliveroo se présentait comme une plateforme qui pouvait être intéressante pour des personnes qui étaient sportives et qui voulaient, voilà, en même temps gagner un peu d'argent. En même temps, il ne faut pas sous-estimer cet élément d'attente qui est en réalité une astreinte, qui est en réalité un moment productif. Même si les livreurs ne sont pas payés pour le temps passé sur l'appli à attendre une nouvelle livraison, ils produisent de la donnée pour la plateforme et cette donnée est la vraie richesse. En réalité, on peut même considérer que l'acte même de livrer ou de se déplacer n'est que la façade de la véritable activité qui produit de la valeur et qui tourne autour de la donnée.
Alors justement, Antonio Casilli, la production de données, ça fait partie de votre livre, hein, je le disais, On attend les robots, un livre référence. Est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer ce que ça veut dire produire de la donnée? C'est quoi cette donnée? En quoi elle a de la valeur et comment on peut la définir?
De la manière la plus simple, on pourrait dire que à chaque fois qu'on clique, à chaque fois qu'on est connecté, on produit de la valeur. Pensez au fait que chaque livreur est géolocalisé et qu'à chaque fois qu'il échange un message ou qu'il décide de s'inscrire sur un créneau, parce qu'il doit s'inscrire sur des créneaux horaires par exemple, ou accepter une livraison, produit de la donnée et que cette donnée est inscrite dans d'énormes bases qui sont ensuite utilisés pour entraîner des algorithmes, par exemple, c'est-à-dire pour améliorer des systèmes de recommandations ou les systèmes même qui établissent les prix des livraisons. Donc, cette donnée sert pour faire marcher la plateforme, mais parfois, la donnée est aussi utilisée pour produire des nouvelles solutions automatiques qu'on appelle des intelligences artificielles et qui, elles, menace l'activité même des livreurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces mêmes plateformes sont en train de développer des programmes très ambitieux d'automatisation de la livraison par des drones, par des robots, ou dans certains cas par des véhicules dits autonomes.
Oui, donc là on comprend bien effectivement que la plateforme gagne sur les deux tableaux. Non seulement elle rémunère un emploi faiblement pour satisfaire le consommateur sur lequel évidemment elle tient un profit, et deuxièmement, ces livreurs sentent vraiment le savoir, ou du moins le conscientiser, et mettent de la donnée qui peut servir donc à améliorer le service, voire demain à la développer avec l'intelligence artificielle. Alors Barbara Gomez, comment la pandémie que nous vivons encore et qu'on a tous vécu depuis cette drôle d'année a aggravé justement les conditions de travail des livreurs?
Alors, la pandémie, elle aggrave nécessairement les conditions de travail dès lors que les travailleurs qui exercent au sein des plateformes ne sont pas protégés par le statut salarial. Et ça a des conséquences directes, notamment sur l'obligation de sécurité. Normalement, dans une relation salariale, l'employeur a une obligation de sécurité envers ses travailleurs et ses travailleuses, qui va se traduire par l'obligation de penser et de mettre en œuvre des mesures pour éviter la prise de risque pour la santé. Et en période de Covid, ça aurait été notamment de réfléchir à des formes de livraison, des formes de réalisation du service qui mettent le moins possible en danger les livreurs, pour commencer. Ça aurait eu comme conséquence aussi des aspects plus financiers, puisque les masques, les gels ont été finalement à la charge des travailleurs et des travailleuses et pas des plateformes. Et puis, de manière plus générale, il y a le Covid, mais faut réfléchir aussi à tout le déroulement de l'activité de ces travailleurs qui s'exercent à l'écart de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Donc, s'il arrive quelque chose à ces travailleurs-là, ils ne peuvent pas bénéficier de cette législation qui leur permet d'être relativement protégés, de voir la responsabilité aussi financière de la plateforme être engagée dans la mesure où financer ce régime d'accident du travail et de maladie professionnelle, ben, c'est aussi par les cotisations sociales et que ces plateformes ne payent pas de cotisations sociales. Donc on est dans un ensemble finalement qui est déjà très problématique et qui a été aggravé dans ce contexte de pandémie où les livreurs ont été vraiment laissés seuls. Ils ont dû gérer en fait ces questions sanitaires eux-mêmes, mettre en œuvre des procédures sanitaires qu'ils ont inventées eux-mêmes, qu'ils ont filmées, qu'ils se sont transmises, qui ont ensuite été reprises éventuellement par les plateformes et même par le gouvernement, mais ils ont dû se débrouiller tout seuls.
Oui, et là, on voit bien que ça a été quand même le moment de tous les records, le record déjà de livraison, c'est-à-dire que tout le monde, et nous y compris, hein, bien sûr, on s'est mis à cliquer, à commander, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc c'était eux qui prenaient les risques, eux qui devaient faire face à une cadence infernale. Et puis en même temps, il y avait d'autres records, ceux d'Amazon, qui, en bourse, réalisaient des bénéfices qu'ils n'avaient jamais réalisés jusque-là. Donc on voit que ça a été... Est-ce que vous pensez que ça a été un moment encore de creusement des inégalités ?
Mais évidemment. D'ailleurs, les plateformes de travail, elles fonctionnent sur une paupérisation qu'elles recherchent même, je pense, hein, des travailleurs et des travailleuses. On a des gens qui ne sont pas protégés par le statut de l'emploi, par le travail qui donne accès à un statut avec voilà tout le régime du droit social, le droit du travail, le droit à la protection sociale, etc. Et donc, à partir du moment où on est dans des activités où les risques vont se multiplier, on va recourir de plus en plus à ces personnes-là, et qu'elles ne sont pas protégées par les règles individuelles et collectives qui leur permettent de dire stop, de dire voilà, on a le droit à avoir une représentation syndicale, à revoir un peu nos conditions de travail, à avoir accès à une sécurité sociale. Mais évidemment, tout ça est éminemment problématique. Et d'ailleurs, j'aimerais juste ajouter au sujet d'Amazon, puisque vous avez évoqué le sujet, on voit bien la différence entre les travailleurs des plateformes et les travailleurs salariés d'Amazon. Même si on dénonce effectivement, et il faut le dénoncer, la situation très compliquée de ces salariés en matière de conditions de travail notamment, parce qu'ils et elles sont salariés d'une entreprise qui est Amazon, il y a eu des conséquences directes juridiques en période de Covid, puisque vous avez dû en entendre parler, mais il y a eu des actions en justice qui ont abouti à la condamnation d'Amazon qui n'avait pas mis en place toutes les mesures sanitaires nécessaires pour protéger leurs travailleurs contre le Covid. Et ça, pour le coup, c'est parce qu'ils sont employeurs et que les travailleurs sont salariés.
Oui, effectivement, c'est arrivé dans quelques entrepôts, on s'en rappelle, en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir justement les différentes couches d'exploitation. Là, vous le disiez, les salariés d'Amazon mieux protégés que les livreurs indépendants d'Amazon. Mais on voit qu'il y a même encore une nouvelle couche d'exploitation avec des individus qui n'en ont même pas de papier et qui vont prendre l'identité d'un livreur officiel. Je vous propose d'écouter Jérôme Pimaud qui dirige le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme.
Les gens qui vont vers ce métier-là sont des gens de plus en plus précaires. On parlait tout à l'heure des réfugiés et on l'a vu, mais ça se voit à la couleur des gens hein. Dans la rue. On s'aperçoit qu'en fin de compte, il n'y a plus que des livreurs qui ressemblent à des gens qu'on voit surtout sur les quais à dormir dans des tentes ou sur le bord du périph. Donc on voit bien que cet auto-entrepreneuriat heureux qu'on nous a vendu comme une espèce de panacée, les gens devraient quitter des CDI pour aller rouler chez Uber ou Deliveroo, sauf que non.
France Culture, le temps du débat du samedi, François Saltiel.
Alors là, c'est une chose qu'on découvre, enfin que j'ai découverte moi, en tout cas dans votre enquête, Gourvan Krisanajaya, c'est cette ampleur de ce phénomène, c'est-à-dire des sans-papiers, des réfugiés, des gens qui vont louer des comptes à d'autres livreurs. Comment ça se passe ce phénomène-là ? Je crois que vous l'avez même vous-même expérimenté.
Oui. Alors c'est assez simple hein. Finalement, il y a deux cas de figure. Soit les livreurs vont se refiler les comptes devant les restaurants directement, soit sinon il y a une grande bourse aux comptes sur les réseaux sociaux, comme un peu ça concerne un peu tous les secteurs. Et là, c'est vrai qu'on trouve beaucoup de comptes différents sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai trouvé un compte sur les réseaux sociaux. On trouve de tout, hein, toutes les marques, Stuart, Uber Eats, Deliveroo, etc. Et en fait, ça s'explique par une raison assez simple, c'est que les rémunérations ont baissé de façon très importante depuis l'arrivée des plateformes en France. Et donc, ce sont souvent des livreurs qui ont plusieurs comptes et qui font rouler des comptes entre guillemets par d'autres livreurs, par le biais d'autres livreurs. Et comme ça, en fait, ils peuvent avoir des journées où ils travaillent eux-mêmes, mais ils touchent de l'argent par une commission à ces livreurs. Et bien sûr, c'est illégal. Enfin. C'est illégal puisque les personnes sont en situation irrégulière et que souvent ça se fait par des commissions qui sont assez importantes. Moi, par exemple, c'était 80 € la commission. Donc c'était une journée de travail sur ma semaine qui était prise par la personne. Et derrière, j'avais pas la garantie qu'il allait me payer puisque la rémunération se faisait de la main à la main. Et voilà.
Oui, donc pour bien comprendre, c'est une sorte de sous-location. C'est-à-dire qu'une personne qui est dans un état de précarité extrême, enfin vous l'avez simulé, vous l'avez joué, parce que vous êtes journaliste, à Libération, je le rappelle. Mais sinon, quelqu'un qui est sans papier réfugié va donc payer une commission, 80 € par semaine en moyenne, pour pouvoir avoir l'usufruit du compte d'un autre livreur qui lui-même est exploité finalement. Donc là, on est vraiment dans l'exploitation de l'exploitation de l'exploitation.
Exactement. Et c'est vraiment un système de c'est une chaîne alimentaire où le plus gros mange les plus petits, et en bout de chaîne, il y a des personnes qui ne cherchent que la survie finalement. Quand on voit les conditions, et Jérôme Pimaud le disait dans l'interview que vous avez passée, c'est assez flagrant de voir que même quand on les regarde sur les vélos, ce sont des gens qui la plupart du temps ont des Vélib, et en ce qui concerne le matériel, quand on les regarde l'hiver notamment, il y en a beaucoup n'ont pas de manteau, n'ont pas eux-mêmes mangé et ils livrent des repas. C'était encore plus flagrant d'ailleurs pendant le confinement, puisque tout d'un coup les rues étaient vidées et il y avait des masses comme ça de livreurs qui étaient extrêmement précaires et qui la plupart étaient en sous-location.
Alors, Antonio Caselli, vous qui avez beaucoup travaillé sur l'invisibilité de ces travailleurs, est-ce que une des vertus finalement de cette pandémie, ce n'est pas d'avoir rendu ces travailleurs plus visibles, puisque là on le vit encore, on les voit alors que d'habitude on leur adresse pas la parole, on réceptionne le colis sans même un regard. Est-ce que ça n'a pas offert finalement n'a pas rendu la précarité visible, plus visible, du moins?
Oui, tout à fait. En même temps, j'hésiterais à le définir une vertu. C'est une conséquence d'une visibilité relative. Pendant les situations de lockdown, on a remarqué que partout dans le monde, dans des villes désertes, on voyait tracer des flottes de travailleurs qui livraient. Et en même temps, il y a eu aussi une augmentation incroyable du nombre de travailleurs sur ces mêmes plateformes. La raison pour laquelle les rémunérations ont baissé et qu'on se retrouve face à une explosion de ce phénomène de sous-traitance en cascade aussi, c'est qu'il y a eu une augmentation vraiment importante de personnes qui, se retrouvant au chômage, ont cherché à compléter leur fin du mois ou même à avoir un revenu primaire dans certains cas, en s'inscrivant sur ces plateformes. Et ça, c'est un phénomène international. En même temps, face à cette visibilité, on a une nouvelle invisibilité. C'est le fait que les plateformes qualifient, par exemple, ces livraisons ou ces processus logistiques comme sans contact. Le fait de dire qu'une livraison est sans contact, c'est même pas un bépieux, c'est un mensonge qui met en danger les travailleurs, les livreurs, parce que en réalité, pour eux, il y a du contact. Il y a du contact avec les restaurateurs, il y a des contacts avec les surfaces de je sais pas, les poignées, les portes, ils doivent traverser des villes. La seule personne qui bénéficie de ce sans contact, c'est le mangeur à la fin, donc c'est le consommateur.
Oui, on pourra justement aborder la question de la responsabilité du consommateur aussi. Justement, pour rebondir sur cette question de sans-papiers et de réfugiés, quand on lit l'enquête de Gorvan, on se rend compte que ce n'est pas un épiphénomène. À votre avis, et avant de passer la parole à Barbara Gomez qui a travaillé sur cette question, à votre avis, est-ce que les plateformes en ont conscience?
Les plateformes en ont conscience et les plateformes exploitent cette situation. Si on regarde d'autres pays d'Europe, je pense à l'Italie, il y a depuis un an une action en justice en cours pour justement limiter et dénoncer ce phénomène qu'on qualifie là-bas de caporalato, qui veut dire tout simplement sous-traitance qui relève presque de l'esclavagisme et qui concerne exactement le phénomène décrit par Gourvan dans son livre. Donc la question est connue, et la question est aussi un problème que les plateformes refusent d'aborder, parce qu'ils préfèrent ne pas regarder ou faire semblant de ne pas savoir.
Alors le mot d'esclavagisme est fort hein, quand même, parce que c'est vrai que si, là je me repasse dans mon esprit les publicités d'Uber Eats que j'ai encore vues peut-être il y a une heure, on se rend compte que c'est pas forcément l'esclavagisme qu'on nous vend, et puis c'est un mot fort aussi, puisque il faudrait que le consommateur, encore une fois, que nous sommes tous, au moment de cliquer, on se dise est-ce que je participe pas finalement à un phénomène d'esclavage. Et là ça poserait effectivement une question forte. Justement, Barbara Gomez, vous suivez de près tous ces combats, il y en a un notamment, c'est le cas des sans-papiers de chez Frishti. Alors Frishti, juste pour faire une petite définition, c'est une plateforme française cette fois-ci. Alors on avait tendance à croire justement que les Français allaient peut-être être plus responsables que les plateformes américaines, qu'on qualifie souvent de grandes méchantes, sachant que toute la communication de Frishti, c'était de dire on est plus écolo, et puis on est également plus responsable du droit du travail. Or, il semblerait que la réalité est tout autre.
Oui, enfin, je pense que ce modèle économique n'a pas vraiment de nationalité. On est sur un modèle qui a pour conséquence, de toute façon, d'être un modèle de surexploitation par essence. Pour reprendre un petit peu... Oui.
Non, je vous écoute. Ça n'a pas de nationalité, mais c'est important de dire que c'est quand même une plateforme française. C'est-à-dire qu'on a, je pense que justement, les consommateurs se disent peut-être, ils commencent à être de plus en plus informés par rapport à cette dérive-là, se disent, tiens, si je vais sur celle qui me dit qu'elle sera plus écolo, qu'elle va faire plus attention aux livreurs, bah, peut-être que je crois cette promesse publicitaire et j'ai plus de tendance à m'y engager. Sans ça, où la nationalité peut jouer quand même.
On est effectivement sur, c'est ce que me disait Antonio Casilli, ça dépend de ce qu'on nous vend. Mais je pense qu'en réalité, il ne faut pas être dupe depuis le... Ça c'est assez constant. Les plateformes n'ont pas inventé sur ce qu'on va nous vendre. Les RSE, etc., ont montré aussi des limites de la récupération commerciale d'un discours qui va être sur celui de l'écologie ou celui de bien traiter sa salariée, qui devient de plus en plus, de façon étonnamment, un argument commercial. D'ailleurs, on pourra en revenir parce que les plateformes elles-mêmes sont en train de jouer là-dessus. Je pense notamment à Just Eat qui a annoncé un changement de modèle, mais on pourra évidemment y revenir. Mais sur la question des sans-papiers, effectivement, je pense qu'il faut aussi bien comprendre comment s'est passé ce basculement d'une plateforme qui va nous vendre de l'indépendance, faites du vélo, vous qui êtes sportif, en fait, vous n'êtes pas en train de travailler, vous êtes en train d'avoir une activité sportive rémunérée. Donc, on avait quelque chose qui avait tendance à vouloir rendre l'activité laborieuse ludique, comme si on ne pouvait pas prendre du plaisir au travail, par ailleurs, en disant, voilà, on est sur quelque chose de ludique, donc pas du travail, et ça va euphémiser aussi l'expression des rapports de force. Et bien, dans un premier temps, Antonio Casilli disait aussi tout à l'heure, on visait ces étudiants sportifs, et ils avaient un CDI avec une rémunération horaire qui n'était pas en dessous du SMIC pour beaucoup d'entre eux, et des bonus qui allaient de 2 à 3 euros par mission réalisée. Donc, c'était assez confortable, c'était de l'argent de poche assuré. Et puis, comme c'était un public essentiellement étudiant, toutes les questions de sécurité sociale étaient par ailleurs assurées grâce à ce statut d'étudiant. Et puis, ça pour le coup, Gourvan l'a évoqué tout à l'heure, on bascule assez rapidement, une fois qu'on a suffisamment de travailleurs, une fois que les plateformes commencent à être connues et à avoir suffisamment de clients, on bascule à une rémunération forfaitaire. En l'occurrence, je me souviens bien de Deliveroo qui annonce durant l'été, qui vont passer de ce type de rémunération stable à une rémunération à 5 euros la course. On va voir émerger les premières formes de contestation, par ailleurs, d'action collective des livreurs. Et puis ensuite, on va passer à une rémunération, on va dire, plus kilométrique, avec un mode de calcul par ailleurs, de ces courses qui est tout à fait obscur. Et ça a des conséquences nécessairement sur la population qui va travailler pour ces plateformes, parce qu'à la fin, quand on passe à une rémunération kilométrique à ce point obscur et à ce point maigre, disons, ridicule. Il reste qui pour travailler sur ces plateformes ? Eh bien, des personnes extrêmement exclues du marché de l'emploi, beaucoup de jeunes pour la livraison, et des sans-papiers. Et quand vous avez parlé du fait que le Covid avait visibilisé ces travailleurs, et pourquoi ça les a visibilisés ? Parce qu'on s'est retrouvé dans une période sur la première vague où tout le monde avait peur de sortir de chez soi. On ne savait pas ce que c'était que cette maladie, que ce virus. Les gens, vraiment, rappelez-vous, les villes étaient désertes, personne ne sortait. Et donc, les personnes qui n'ont pas eu le choix, c'était les personnes qui étaient dans des situations économiques et par ailleurs aussi administratives, tout à fait terribles, tout à fait désastreuses. Et donc, elles n'ont pas eu d'autre choix que de risquer leur vie. Et c'est comme ça qu'elles le vivaient, pour espérer gagner quelques euros. Et en ce sens-là, on peut comprendre que ce soit assimilé à tout ce qu'il y a de pire sur finalement un abus dans l'utilisation des travailleurs extrêmement précaires. Et j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que souvent on a tendance enfin il y a un parallèle qu'on peut faire avec ce qui s'est passé il y a plus d'un siècle avec l'invention du droit du travail. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre du retour en arrière terrible. On a tendance à oublier que le droit du travail, c'est aussi un droit de la régulation de la concurrence sociale entre les travailleurs. C'est-à-dire que le droit du travail, il place une limite en deçà de laquelle il n'est pas admis que le travailleur vende sa force de travail. Je pense notamment à la place des grèves, qui a actuellement la place de la Libération près de l'Hôtel de Ville, cette grande place, eh bien... Il y a plus d'un siècle, cette place était le lieu où de nombreux travailleurs venaient rechercher du travail et des employeurs venaient et disaient « voilà, j'ai besoin de trois peintres aujourd'hui qui veut bien travailler pour moi pour un franc, toi pour un franc, il m'en reste deux pour un franc cinquante ». Et donc vous voyez, le droit du travail, il pose une limite en disant « voilà, quand on est très très précaire, quand on n'a vraiment pas le choix, quand on est dans une situation économique et sociale difficile, on sait qu'on va être amené à travailler, à vendre sa force de travail dans des conditions qui sont attentatoires à la dignité humaine. Et le droit du travail, il sert à ça. Donc en refusant d'accepter que le lien qui lie les employeurs aux travailleurs est un lien salarial, en étant dans le déni de leur qualité d'employeur, les plateformes, elles refusent aussi ce minimum qui protège les travailleurs contre les limites à ne pas dépasser pour leur propre santé, pour leur propre dignité. Et en ce sens-là, on peut effectivement parler d'un modèle qui est éminemment problématique, voire esclavagiste.
Oui, puis c'est toute la question effectivement du lien de subordination. Est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas ? Et toute la question de la requalification justement, du combat pour requalifier justement ces contrats, cette activité indépendante en contrat de travail. Justement, Gurvan Krishnadjaya, quand vous avez rencontré tous ces livreurs, comment vous les sentez justement dans leur capacité de mobilisation ? Est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce qu'ils se disent qu'il faut... On a vu des choses déjà en train de se mettre en place, mais quelle est leur conscience qu'ils ont justement pour défendre leurs droits ?
Je pense que ça a été longtemps très compliqué parce que c'est un boulot où finalement on est très seul. Même s'il y a des endroits pour se rassembler, on se rassemble plutôt. Enfin, on bouge beaucoup, donc les endroits sont pas toujours les mêmes. Par ailleurs, c'est de plus en plus des personnes qui sont dans des conditions de précarité extrême et qui ont du mal à conscientiser leurs propres conditions. Du coup, ça rend le combat parfois un peu complexe. On voit qu'il y a des mobilisations qui ont à ramener du monde et qui ont réussi à faire bouger un peu les choses, mais c'est jamais quelque chose d'extrêmement fort. Mais ça l'est de plus en plus. Je pense que ça tient aussi les syndicats sont en train de s'organiser de plus en plus. Il y avait peut-être un déficit de culture chez beaucoup de syndicats et d'organisations syndicales. Et de plus en plus, elles sont en train de s'organiser autour des livreurs pour obtenir des droits et pour obtenir des revendications de la part de ces personnes.
Alors c'est peut-être pas encore un syndicat, mais le CLAP, le collectif des livreurs autonomes de plateforme, dont on a écouté justement le fondateur, fait partie justement de ces avancées positives pour essayer de structurer un combat social.
Et oui, et d'ailleurs ce qui est intéressant avec le CLAP, c'est qu'il est arrivé quand les livreurs ont voulu se mobiliser en premier, ils étaient dans une forme de rejet quand même de la question politique et syndicale. Ils avaient peur de la récupération, ils disaient nous on veut des gens qui sont proches de nous et qui nous comprennent. Et c'est pour ça que le CLAP a été légitime dans un premier temps, c'est que eux ils étaient considérés comme étant hors étiquette et c'était surtout des gens du métier en fait.
Alors on va poursuivre justement sur cette histoire syndicale en prenant un peu de hauteur et de distance et en partant aux États-Unis où très récemment il y a eu une tentative de création d'un des premiers syndicats, du premier syndicat au sein d'Amazon. Ça se passait en Alabama et a priori, vous allez le découvrir, le vote a plutôt été négatif et donc positif pour la direction.
C'est un ouf de soulagement pour Amazon. Les deux tiers des employés de cet entrepôt d'Alabama qui aurait pu créer un bouleversement historique aux États-Unis ont refusé la création d'un syndicat. Certains observateurs en sont restés bouche bée.
On a vu des photos d'employés obligés d'uriner dans une bouteille, tant les pauses sont restreintes. Des députés du Congrès ont apporté leur soutien, et pourtant Amazon a réussi à écraser cette initiative.
Dans cet État, qui est l'un des plus pauvres du pays, Amazon paie près de 12 euros de l'heure, le double du minimum horaire légal. Un argument qui a joué. L'entreprise a aussi mené une campagne efficace pour dissuader ses salariés. Vidéos, textos et ses affiches jusque dans les toilettes pour expliquer qu'un syndicat allait leur coûter trop cher en cotisation. Cela a convaincu ses employés qui ont voté non.
On sait à quel point les dirigeants des syndicats se payent des bons salaires avec les cotisations des adhérents. Donc pour moi, ce n'était pas quelque chose dont on avait besoin ici.
Les syndicats ont vite fait de dire qu'Amazon est corrompu. Mais eux aussi ont fait des choses louches par le passé.
Les syndicats au niveau national se désolent de ce résultat.
Notre système de droit du travail est faible et Amazon a complètement profité de ses failles.
Dans un communiqué, Amazon a rejeté toutes les accusations d'intimidation. Les syndicats nationaux, de leur côté, ont annoncé qu'ils allaient contester les résultats en justice.
France Culture, le temps du débat du samedi, François Saltiel.
Et on continue de s'interroger justement sur ces nouvelles précarités, les précarités des travailleurs de plateforme en ce jour du 1er mai. Alors Antonio Casilli, comment on peut expliquer justement que cette tentative syndicale ait échoué aux États-Unis? C'est un peu compliqué à comprendre comme ça de loin, parce qu'on se dit que ces livreurs sont précaires, on l'a bien démontré, on en parle depuis le début de cette émission. On leur donne là l'opportunité de se structurer, de monter un syndicat pour défendre leurs droits, et pour autant ces mêmes travailleurs votent contre la création de ce syndicat.
Oui, mais en même temps, ce n'est pas compliqué du tout. Il s'agit d'une situation de menace, de tactique qui passe aussi par le fait d'embaucher des boîtes qui s'occupent de PR, donc de propagande auprès des travailleurs, auprès du public, auprès des législateurs. Et dans le cas de l'Alabama, Amazon a dépensé allègrement 2 millions de dollars pour payer une de ces sociétés qui, par exemple, s'occupaient d'organiser non seulement ces campagnes de textos très invasifs dans les smartphones même des travailleurs, mais aussi d'organiser des réunions auxquels ils ne pouvaient pas échapper, dans lesquels, à coup de PowerPoint, les ont pas vraiment convaincus, mais on fait comprendre que s'ils allaient voter pour la syndicalisation, ils allaient subir certaines conséquences. Donc là, on est vraiment dans une situation de tension, de guerre de classe, et je mesure mes mots, et qui en plus résonne avec un ensemble d'autres tactiques de ce type-là que d'autres plateformes comme Google, Uber, etc. ont mené dans d'autres États des États-Unis ou dans d'autres pays d'Europe ou d'autres continents. Si l'on pense à ce qui s'est passé par exemple en Californie où en 2019 le Sénat californien avait approuvé une loi qui requalifiait les travailleurs des plateformes en salariés et ensuite ils ont eu un référendum sur une nouvelle loi qui s'appelle la proposition 22 et que sur cette proposition 22, ou plutôt autour de la campagne de cette proposition 22, Lyft, Uber et compagnie ont dépensé 200 millions de dollars pour convaincre, entre guillemets, l'électorat. Là, on a un problème. On a un problème de vraiment un déploiement d'efforts vraiment importants pour décrédibiliser l'action syndicale, pas seulement celle des syndicats classiques, mais aussi des nouvelles formes d'organisation qui passent, par exemple, par des coordinations de base, par des nouvelles organisations comme le CLAP qu'on a cité, ou par des coopératives, ou par des formes qui rassemblent des commandes de travailleurs, des formes de collectifs de travailleurs.
Oui, donc si on vous écoute et si on vous comprend, c'est un peu David contre Goliath. Et donc le combat semble impossible à gagner, puisque de toute façon, ces travailleurs-là, et je reviens donc à l'exemple américain, n'auront jamais de quoi lutter contre ces 2 millions de dollars que vous évoquez d'investissement.
Oui, en même temps, là, il faut bien comprendre qui est le Goliath. Si on regarde tout simplement le nombre d'effectifs, la force est du côté des travailleurs. La question est évidemment que les plateformes, parce qu'on est dans une situation de vide de régulation, se permettent des activités et des actions qu'elles ne pourraient pas, en ligne principe et en suivant la loi, réaliser. Donc, par exemple, ces formes de propagande sont complètement illégales.
Oui, non, mais d'ailleurs, je crois justement que le syndicat a contesté hein, les résultats qui ont abouti justement à la non-création de ce syndicat chez Amazon. Mais vous dites, faut pas se comprendre de Goliath. On comprend bien que Goliath, vous évoquez la force des travailleurs, de masse, le nombre. Mais là, on voit bien quand même que ces travailleurs étaient appelés à voter. Ils auraient pu quand même voter. On a vu aussi ces syndicats qui ont fait le travail inverse quand même, en allant aller auprès des plus jeunes, en leur disant l'importance de l'histoire syndicale américaine, avec des références avec l'industrie automobile, en disant que c'est important de se regrouper et malgré tout, ils n'y sont pas allés. Alors j'entends bien qu'il y a des moyens qui ont été mis de l'autre côté de propagande, mais est-ce qu'il n'y a pas un déficit aussi de conscience politique ?
Il y a un déficit de conscience de classe, encore une fois. C'est pas seulement une conscience politique. Il y a aussi quelque chose que je profite pour souligner, c'est que ces différentes structures, donc des syndicats, des coopératives, des coordinations de base, sont parfois en compétition entre elles. Et ça, c'est lié un peu d'une part à l'histoire des syndicats en Europe comme aux États-Unis, mais c'est aussi lié à ce que Barbara Gomez soulignait, le fait que les syndicats sont considérés comme des structures extérieures qui arrivent et qui imposent leurs lois dans un contexte qui est considéré comme un contexte nouveau. Or, donc le contexte du travail de plateforme. Or, ce contexte n'est pas si nouveau que ça. On voit réapparaître des formes de marchandage qui rassemblent vraiment au 19e siècle. En même temps, il y a aussi quelque chose de nouveau et il y a des initiatives qui sont très efficaces. Si on regarde de l'autre côté d'Amazon, parce que vous savez, Amazon a un côté visible, donc le côté des livraisons et du e-commerce. Mais Amazon est aussi l'un des plus importants fournisseurs de solutions de calcul et d'hébergement, et aussi de préparation et des données. Donc, du côté de la préparation des données, Amazon, depuis 10 ans, fait face à des syndicats ou des organisations plus ou moins informelles, par exemple de travailleurs de la donnée, de travailleurs du clic, qui, sur Amazon Mechanical Turk, se sont structurés, ont créé, par exemple, des outils de type nouveau, qui s'appellent, par exemple, Turk Opticon, et qui permettent de contrôler exactement combien d'heures, combien de tâches, et combien d'argent gagnent ces travailleurs. Donc, c'est des formes de protection qui passent par des manières de fonctionner qui diffèrent du syndicalisme de lutte ou d'accompagnement des entreprises qu'on connaît dans d'autres pays et qu'on a hérité du 19e et du 20e siècle.
Alors justement, puisque vous parlez d'héritage, il y a quand même eu des succès, Barbara Gomez, des succès syndicaux, notamment de requalification en Europe, notamment en Espagne ou en Italie. Est-ce que ça, c'est justement des motifs d'espoir ?
Effectivement, les violences des attaques et des discours antisyndicalistes par ces entreprises, il faut en mesurer la violence. Et tout à l'heure, donc Antonio Cassidy disait que c'était 2 millions de dollars manifestement pour Amazon. C'était les entreprises, enfin, les plateformes ont mis 200 millions de dollars pour pouvoir faire voter leur proposition 22 qui avait justement vocation à enterrer la loi californienne qui voulait requalifier, enfin qui avait requalifié les livreurs et les chauffeurs en salariés. Donc il y a une force très forte, effectivement, une puissance économique très forte. Et pourtant, en dépit de cela, ce que je trouve très intéressant, c'est que je reviendrai pas sur ce qu'a dit Antonio Cassidy, c'est-à-dire qu'on a vraiment des techniques développées par les travailleurs pour réussir à recréer du rapport de force, à recréer du collectif, à trouver de nouveaux outils pour s'organiser et pour s'opposer à tout cela. Donc il y a une vraie résistance. On a vu là que récemment, enfin hier, il me semble-t-il, il y a eu une annonce de la part de l'administration Biden qui songe à revenir justement sur la question de la requalification et à imposer une qualification en salariat pour les travailleurs des plateformes et notamment les livreurs. Il y a partout dans le monde une vague de requalification qui est extrêmement intéressante, que ce soit en France, en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Brésil, aux États-Unis, qui a justement vocation à contrer le discours des plateformes, qui a un discours prétendant n'être que voilà, des opérateurs de mise en relation, alors qu'en réalité, elles organisent totalement un service, qu'elles contrôlent absolument tout de A à Z. Et ça, je trouve ça très intéressant, parce qu'au regard de leur puissance économique, et de toute l'énergie qu'elle déploie pour imposer aux États de plier, de céder face à leur modèle, que les normes s'adaptent à leurs pratiques et non pas que leurs pratiques s'adaptent aux normes des États, eh bien, en dépit de tout cela, de tout ce lobby, de toute cette puissance financière, on voit qu'il y a des résistances des juges, on voit qu'il y a des résistances des travailleurs. Et là, très récemment, par ailleurs, en Espagne, il y a même une loi qui est en train d'imposer la qualification de salariat pour les livreurs des plateformes. Et donc, je trouve ça extrêmement intéressant et plein d'espoir.
Effectivement, et puis là, on voit bien que ça pourrait faire jurisprudence. Si on voit que cette loi passe en Espagne, ça pourrait avoir effectivement un effet positif. Vous parlez de conscience, justement, du politique, du juridique. Gourvan, est-ce qu'il peut y avoir une conscience du consommateur? Est-ce que, d'ailleurs, votre ouvrage, votre livre que vous avez sorti cette semaine ne participe pas à ça, d'ailleurs, à faire en sorte que, lorsqu'on clique tranquillement chez nous sur notre canapé et qu'on a l'impression qu'on va gagner du temps, et d'ailleurs, on en gagne, est-ce que votre livre sert à nous faire prendre conscience de ce qui se passe derrière cette machine?
Ben, je l'espère. En tout cas, c'était effectivement, je pense que dans une partie du livre, en tout cas au départ, je parle un peu de mon expérience à moi, qui était qu'au départ, j'ai consommé et que je l'ai fait un peu aveuglément. Et qu'en fait, quand on découvre finalement l'envers de ce décor-là, la prise de conscience, elle est assez forte. Et effectivement, je pense que en France, il y a une nécessité, en tout cas, d'évoquer ces questions-là, de les visibiliser. Et je pense que ce qui est dur dans la peau d'un consommateur, c'est de prendre conscience véritablement des conditions de travail à tel point que ça nous fasse changer de mode de consommation, parce que aujourd'hui ces marques-là dépensent énormément pour pénétrer nos cerveaux. Finalement, quand on regarde que par exemple Uber Eats est adossé à la Ligue 1, à chaque fois qu'on va regarder un match de foot, par exemple moi j'aime le foot, à chaque fois que je vais regarder un match, je vais prendre du plaisir et je vais associer le plaisir à Uber Eats. Donc à chaque fois que je vais avoir un moment de plaisir dans mon cerveau, je vais associer ça à Uber Eats. Donc c'est très compliqué finalement de s'extraire de ça, et même pour moi qui travaille sur ces questions-là, parfois je suis tenté de le faire. Donc ça c'est assez révélateur de ce qu'elles sont parvenues à faire de nous, en fait. Après, la question du boycott de ces entreprises, elle est intéressante, et elle est à la fois complexe, parce que si on boycotte, on prive ces personnes-là de travail. Donc je pense que il faut d'abord trouver des alternatives, des modèles, peut-être on parle aujourd'hui de circuits courts, etc., des modèles peut-être plus locaux, plus vertueux, et ensuite orienter les consommateurs vers ces modèles-là.
Justement, ces modèles vertueux de circuit court, Antonio Cassidy, rapidement, parce qu'on approche cette fin d'émission, vous y croyez ?
Moi, je crois surtout au fait qu'il n'y a pas de différence foncière entre les travailleurs et les consommateurs sur ces plateformes. Dans la mesure où la vraie valeur est produite autour de la donnée, chaque consommateur est exactement sur le même plan d'exploitation que les travailleurs. Sauf qu'on le voit encore moins. On croit être dans une situation de privilège relatif et on cherche à développer une conscience de consommateur, mais cette conscience est aussi la conscience du fait que les consommateurs aussi sont en train de produire de la donnée. À chaque fois qu'ils cliquent sur l'application, à chaque fois qu'ils payent, à chaque fois qu'ils se géolocalisent, ils aussi contribuent à la richesse de ces plateformes et ils aussi ont intérêt à développer une conscience de leur activité de production de données.
Oui, donc ça serait presque pour faire un petit clin d'œil au 1er mai, consommateurs, livreurs, unissez-vous, parce que finalement on comprend que les deux classes, à leur insu, consciemment ou inconsciemment, à différents degrés, participent à alimenter la grande machine. Dernière question pour vous, Barbara Gomez, c'est toujours très rapidement, parce que par définition on est encore plus proche de cette fin d'émission, l'espoir pour vous il est où?
Ah, l'espoir il est dans les coopératives, je pense. On parle de la prise de conscience des consommateurs. Alors évidemment, on voit bien, par exemple, des entreprises comme Just Eat ont bien compris, hein, le droit du travail, c'est devenu un argument commercial à partir du moment où on nous dit, nous, on change de modèle. Mais je pense qu'on ne peut pas agir qu'au niveau individuel. Donc, choisir des coopératives, par exemple, qui sont vertueuses, qui respectent le droit du travail pour exercer ces livraisons, c'est une possibilité. Mais il faudra forcément, je pense, l'intervention des collectivités pour aider à l'émergence de ces coopératives.
Donc coopératives, évidemment le régulateur, on l'a bien vu en Espagne, qui pourrait inspirer. On voit bien que la France aussi est sans doute partagée entre sa volonté de réguler et en même temps les conséquences économiques néfastes que tout cela pourrait provoquer. Et puis, comme le disait Antonio Caselli, que le consommateur se rende compte finalement que lui aussi, il fait partie de cette grande machine, qu'il en est encore une fois un objet et un produit. Et pour ça, il faudrait arriver à changer nos consciences, en être informé. Et pour ça, le livre de Gurvan Krishnajaya participe activement à cette conscience et je le recommande. Donc, Ubérisation, piège à con, c'est sorti cette semaine. Je recommande bien sûr aussi et toujours le livre d'Antonio Caselli, En attendant les robots, sorti en 2019, mais je le dis, toujours très actuel. Aujourd'hui, Antonio, on n'aura pas eu le temps de développer les travailleurs du clic, ou très peu, c'est-à-dire tous ces micro-tâches, hein, ces personnes qui vont par exemple numériser une facture, sélectionner pour Google telle photo de rue, de feu rouge, pour animer, nourrir le système de Google Street View. C'est un ouvrage qui reste passionnant. Et quant à vous, Barbara Gomez, je vous renvoie bien sûr, je renvoie nos auditeurs à vos travaux et à vos combats sur le terrain. Merci à tous les trois de m'avoir accompagné en ce 1er mai de défilé syndical. On a d'ailleurs beaucoup parlé des syndicats et j'espère qu'on aura à notre manière participé à vous éclairer sur cette situation qui sera sans doute, et qui l'est déjà, un enjeu de demain. Je remercie à la préparation de cette émission CM Boutata, à la technique Élise Le, à la réalisation François Richer, et je vous donne rendez-vous sur l'antenne de France Culture avec Esprit Public 11h avec Émilie Aubry, ça sera votre prochain rendez-vous avec l'information sur une question du mitterrandisme, qu'est-ce qu'il en reste de ces traces politiques et géopolitiques. Et lundi, vous retrouverez Emmanuel Laurentin pour ce temps du débat à 18h20 qui sera consacré à cette question: y a-t-il vraiment un désir d'autorité en France? S'il y a bien une autorité, c'est celle du temps, et c'est l'heure de Rôle de l'antenne. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. Merci à tous.